France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. L'heure de votre journal, Xavier Demagny. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous. Du monde sur la route, fin des vacances pour beaucoup. Ce week-end, plus de 800 km d'embouteillage et ça va durer tout l'après-midi. Journée classée rouge par bison futé et même noir dans le sud-est. Nous serons sur l'autoroute près de Lyon dans un instant. Soyez prudents si vous êtes au volant. Les universités d'été de la France insoumise dans la Drôme. Libération rappelle son journaliste sur place. Le parti inflexible sur son refus d'accréditer un autre journaliste du quotidien Le Monde, auteur d'un livre sur LFI. Du sport à la une aussi ce week-end, Coupe du monde de rugby en Angleterre, entrée en lice des Françaises et la Ligue 1 de foot. L'OM attendu au tournant par ses supporters après la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. La météo de ce week-end, Virginie Hilson-Lévy, temps parfait pour la fin des vacances.
Oui, du soleil quasiment partout et une chaleur sans excès, je vous donne tous les détails dans quelques minutes.
Inter.
Déjà donc plus de 800 km de bouchons, les autoroutes encombrées ce midi pour le retour de vacances. Journée classée rouge et même noire pour les retours depuis la Méditerranée. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Xavier.
On vous retrouve en direct de Lyon, posté à la sortie du tunnel de Fourvière. Passage obligé pour celles et ceux qui remontent du sud via la 6 et la 7. Et sans surprise Christophe, il faut prendre son mal en patience.
Oui, vous l'avez dit, Bison Futé avait vu noir et il craignait le pire. Finalement, les vacanciers de retour s'en sortent plutôt bien.
Le Maroc jusqu'à la Belgique, ça fait 2 jours et demi maintenant. C'est trop fatigué. J'ai fait 3000 km. Il y a plein d'embouteillages, plein de camions.
On arrive de Corse, on a pris le bateau, on est arrivé tôt. Ça a juste bouchonné au tunnel de Fourvière. Je fais des étirements parce qu'en plus, les ralentissements, c'est assez fatigant. Mais ça va. On écoute des podcasts, on fait des petits jeux avec les enfants, donc tout va bien.
Ça roule plutôt bien, hormis arriver à Lyon. Et là, on va jusque Ménil-Saint-Père pour faire un arrêt, pour aussi visiter un peu autre part. On pousse un peu le retour, l'inévitable, malheureusement, mais il faut bien repartir dans la vie de tous les jours.
Ludovic, un ch'ti de Maubeuge, avait évité les obstacles, quitté l'autoroute et traversé Lyon. Mais la chance a tourné, il est stoppé sur l'air, capot ouvert.
On est tombé en panne avec la 508, apparemment c'est la courroie d'accessoire qui a sauté. Donc là on attend la dépanneuse. J'ai ma belle-sœur qui nous attend là-bas tout en haut dans le nord. Et elle en panne aussi avec sa voiture. Tout va bien. C'est des bonnes vacances.
Pour ceux qui descendent vers le sud, c'est compliqué. D'ici, on voit un bouchon grossir en amont de Lyon. La routine, en sorte d'un samedi du mois d'août, les vacances, ça se mérite.
Des bouchons qui vont se poursuivre. Merci Christophe Vincent. Cet après-midi, en partance des côtes méditerranéennes, atlantiques, mais aussi dans le centre du pays et en Île-de-France, comme le confirme Morgane Sauzet de Vinci Autoroutes, basée à Valence.
Il va y avoir encore beaucoup de trafic, beaucoup de circulation jusqu'à à peu près 20 heures. Pour faire Marseille vers Lyon, il va falloir plus de 3 heures, contrairement à 1h30 habituellement. Et puis dans l'autre sens, dans le sens des départs, il va falloir compter 20 à 30 minutes de plus. Donc aujourd'hui, si vous partez en fin d'après-midi, ce sera que mieux, puisque le trafic va s'améliorer vraiment en fin de journée, vers 20h, 21h, où il y aura moins de monde sur la route.
La circulation difficile encore demain. Essayer de partir aux extrémités de la journée, soit tôt le matin, soit tard le soir. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt satisfaite d'ailleurs de son bilan provisoire de cet été. Le taux d'occupation des hôtels atteint 85%, alors que les professionnels du secteur craignaient un tassement par rapport aux années précédentes. Le comité régional du tourisme note toutefois une baisse de la clientèle internationale, désormais essentiellement européenne, ainsi que des difficultés plus prononcées pour les autres activités comme la restauration. Libé claque la porte. Le quotidien rappelle son journaliste accrédité aux universités d'été de la France Insoumise dans la Drôme. Signe de protestation et de soutien après la mise à l'écart par le parti d'Olivier Perroux, journaliste au Monde et co-auteur avec sa consœur de Libération, Charlotte Belaïche, du livre enquête La Meute. Il n'y avait pas d'autre voie possible, estime Lilian Alemania, l'un des chefs du service politique de Libération, face au refus de LFI de faire marche arrière.
On s'est dit que LFI allait peut-être revenir sur sa décision, que ce soit le premier jour ou le second jour, qu'un mouvement de protestation des journalistes sur place et des SDJ allait peut-être faire changer d'avis la direction de LFI. C'était pas le cas, donc on a décidé à ce moment-là de partir, parce qu'on s'est dit aujourd'hui c'est Le Monde, demain ce sera Libération, parce qu'on accréditera Charlotte Belaïch qui est co-autrice du livre La Meute, et on ne veut pas banaliser ça, on ne veut pas que les politiques et les partis politiques prennent l'habitude de choisir leurs journalistes ou de rayer de la liste des accréditations des journalistes qui ont écrit des articles ou des livres qui ne l'auront pas plu.
À Lilian Alemania de Libération avec Lionel Thompson. Hier, plus d'une trentaine de rédactions se sont élevées contre cette décision. Les exclusions de ce type ont souvent été l'apanage de l'extrême droite et sont une atteinte grave au droit d'informer, dit leur communiqué commun. Et c'est depuis la Drôme hier soir que Jean-Luc Mélenchon a confirmé le soutien de la France insoumise au mouvement de blocage du 10 septembre, bloquons tout. Le leader du parti en appelle même à la grève générale, espérant un soulèvement populaire contre le gouvernement avant le dépôt d'une motion de censure mi-septembre. Cette initiative, née sur les réseaux sociaux en réaction au plan d'économie de François Bayrou, a aussi reçu le soutien des écologistes, des communistes et des socialistes. La CGT et Force ouvrière doivent encore s'accorder en interne. Elle inquiète en revanche l'UDP, syndicat patronal des entreprises de proximité, et qui partage certes une partie du constat, mais préfère rester en retrait. Son président Michel Picon.
Le pays est dans une situation difficile avec 3 300 milliards de dettes. Le gouvernement doit entendre les contestations, ouvrir des champs de discussion, d'amélioration. Mais l'UDP ne s'associera ni de loin ni de près à un mouvement qui aurait volonté de bloquer le pays et de gagner par la force et la contestation un pouvoir politique que d'aucuns n'arrivent pas à conquérir par les urnes. Et donc non, l'UDP sera combative, bien évidemment. Nous avons des entreprises, nous avons des pharmacies qui ont des difficultés avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, des taxis qui ont des difficultés. Moi, j'en appelle au gouvernement à l'écoute, au dialogue, à la discussion pour éviter justement des réactions de blocage et un peu irrationnelles qui seraient préjudiciables pour tous nos concitoyens.
Le président de l'UDP, Michel Picon, invité ce matin de France Info. François Bayrou à la tâche tout l'été, mais donc menacé par ses blocages et une potentielle censure à l'Assemblée. Rentrée politique délicate pour le Premier ministre qui tiendra lundi une conférence de presse à quelques semaines de l'examen du prochain budget. Son plan prévoit près de 44 milliards d'économies l'an prochain. Il est 13h07.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demagny.
L'optimisme des autorités espagnoles. La fin des incendies se rapproche, affirme la chef de la protection civile. Il reste quand même encore 18 incendies de forêt actifs et la situation est toujours très inquiétante dans le nord-ouest du pays notamment. Ces incendies ont fait 4 morts, détruit des centaines de milliers d'hectares et suscité la colère d'une partie des habitants des régions touchées face à la gestion de ces feux par les gouvernements régionaux. Aux Pays-Bas, une démission qui en dit long. Le chef de la diplomatie néerlandaise quitte le gouvernement, regrettant de ne pas pouvoir imposer de nouvelles sanctions contre Israël. Et ce, face à la situation humanitaire dramatique à Gaza, l'ONU, nous en parlions ici même hier, a déclaré l'état de famine dans une partie de l'enclave. Malgré de longues discussions, Kaspar Veldkamp, ce ministre, donc, a fait face à la résistance de ses collègues. Explication Lakshmi Nota.
Je rentre chez moi et je vais rédiger ma lettre de démission. C'est avec ces mots que Kaspar Veldkamp quitte le Conseil des ministres hier soir, visiblement déçu de la tournure des débats au sein du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères voulait prendre des mesures significatives à l'encontre d'Israël, des sanctions en réponse à la violence déployée à Gaza, à la crise humanitaire et à la politique de colonisation de la Cisjordanie. Mais ses partenaires de coalition prônent une ligne moins stricte envers Israël. Ancien ambassadeur à Tel Aviv entre 2011 et 2015, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire estime que ses compétences sont trop limitées pour pouvoir exercer sa fonction. « Nous ne sommes pas crédibles si nous restons », dit Gaspar Veldkamp. Tout le parti NSC l'a suivi dans cette démission, 4 autres ministres et 4 secrétaires d'État. Le premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a déclaré regretter profondément ce départ. Pour lui, tout le monde était prêt à faire des concessions pour sanctionner Israël.
Lakshmi Lotha, et c'est de tout que manquent les Gazaouis, pas seulement de nourriture. Les communications notamment sont extrêmement difficiles dans l'enclave, compliquées aussi en Cisjordanie occupée. Et si Israël bénéficie depuis peu du réseau satellitaire Starlink, propriété d'Elon Musk, le milliardaire américain a par exemple exclu les territoires palestiniens de sa couverture. Les habitants n'ont accès qu'à de la 3G de faible puissance et bien capricieuse. Sur France Inter, sur place pour France Inter, Alice Moreno.
Si le centre-ville de Ramallah dispose d'une bonne couverture réseau, c'est beaucoup moins le cas dans les quartiers périphériques et ailleurs en Cisjordanie. Tarek agite son téléphone, visiblement agacé.
Le service, les communications en général sont très faibles. Soit l'électricité est coupée à cause de l'occupation, soit les opérateurs ne diffusent pas, ce qui rend la connexion Internet et les communications très lentes et pénibles. Autrement dit, si nous sortons de Ramallah, Internet et les appels sont parfois inexistants.
Depuis les accords d'Oslo, conclus dans les années 90, c'est Israël qui a la main sur les ondes et fréquences en Cisjordanie, comme le rappelle ce jeune étudiant en ingénierie informatique.
Nous n'avons aucun contrôle sur le réseau ici, la décision ne nous revient pas, nous n'avons que la 3G, alors que partout dans le monde actuellement il y a la 4G, mais ici elle est interdite jusqu'à présent, parce que les autorités israéliennes ne veulent pas en entendre parler, tandis qu'eux ont la 5G.
Il n'est pas étonné une seule seconde par la décision d'Elon Musk de priver les Palestiniens du service satellitaire Starlink.
Sa décision est attendue, car il considère que n'importe quel bénéfice, n'importe quel progrès pour le peuple palestinien peut représenter un danger pour les Israéliens.
S'il n'est pas surpris, il dénonce toutefois une décision injuste qui isole toujours un peu plus les Palestiniens du reste du monde. À Ramallah, Alice Moreno, France Inter.
Aux États-Unis, le chef du renseignement militaire renvoyé ainsi que deux autres responsables de l'agence démis de leurs fonctions après la publication d'un rapport qui aurait fortement déplu à Donald Trump. Il mettait en doute la version avancée par le président américain sur l'efficacité des frappes de l'armée en Iran menées en juin. C'est une conséquence directe du durcissement américain des droits de douane. La Poste en France, comme d'autres groupes postaux européens, bloque l'envoi de colis vers les États-Unis. Hormis les cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros. Et Nicolas Joly, certaines entreprises françaises vont donc être obligées de revoir leur organisation.
Il faudra expédier différemment, mais toutes les entreprises ne sont pas concernées. Laurent Toumine est directeur du commerce au détail d'Accenture, société de conseil international.
La majeure partie des entreprises françaises, en fait, sont dotées de réseaux logistiques qui leur permettent d'aller adresser le marché nord-américain avec des opérateurs qui sont alternatifs à la Poste. Le premier tiers, en fait, du commerce français ne sera pas impacté massivement par cette mesure.
Pas d'inquiétude pour le secteur du vin. Envoyer de l'alcool par la poste était déjà impossible. D'autres filières pourraient par contre avoir plus de mal.
Les entreprises les plus concernées seront certainement les entreprises de taille intermédiaire ou les petites entreprises. Et on pense particulièrement au secteur des cosmétiques qui ont l'habitude effectivement de passer par les services de la poste pour expédier l'ensemble de leurs produits. Ces entreprises-là devront trouver des opérateurs alternatifs qui pourront leur permettre de continuer à expédier leurs produits vers les États-Unis.
Mais peu d'angoisse pour le moment chez les entreprises. Le président de la Cosmic Valley ne pense pas que l'impact sera majeur. Il dirige le pôle de compétitivité de la parfumerie cosmétique française. Pour la Fédération de la vente à distance, il est encore trop tôt pour commenter publiquement cette annonce.
Et précisons que cette décision ne concerne pas le service Chronopost qui, à ce stade, fonctionne normalement. La Coupe du Monde de rugby, les Anglaises clairement favorites et à domicile, n'ont fait qu'une bouchée des Américaines hier soir en ouverture. Victoire 69-7. Ce soir, c'est au tour des Françaises. Premier match à 21h15 contre l'Italie. Elles espèrent cette fois briser le plafond de verre et aller jusqu'en finale. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
En direct d'Exeter, sud-ouest de l'Angleterre. Fanny, une chose est sûre, et l'ambiance en témoigne sur place, à chaque édition, la compétition gagne en popularité.
Oui, parce que là, c'est impossible de manquer cette Coupe du Monde dans le centre-ville d'Exeter. Elle s'affiche partout. Il y a des banderoles signalant la Coupe du Monde, des banderoles en plus aux couleurs flashy. Vous ne pouvez pas les éviter avec du orange, du jaune, du rose. Et puis, il y a une fan zone également, comme finalement les plus grands événements sportifs masculins, si je puis dire. Et la fan zone, eh bien, il y a déjà des animations avec beaucoup de jeunes Anglais. Ils ont tous les maillots de rugby sur le dos. Alors la plupart, il faut être honnête, c'est avec le maillot du club local, les Chiefs d'Exeter. Il y a des maillots anglais encore, pas beaucoup de maillots français, il faut être honnête, mais il faut préciser, vous l'avez dit, Exeter est au sud-ouest de l'Angleterre, à 3 heures de train de Londres. Donc on attend les supporters français, eh bien, dans les heures à venir, le temps qu'ils prennent l'Eurostar depuis Paris et qu'ils arrivent ici du côté d'Exeter. Ils seront là, en tout cas, le Sandy Park Stadium les attend. 15 000 places pour vivre, eh bien, cette rencontre entre la France et l'Italie.
Et on compte aussi sur vous, Fanny, merci. France-Italie, donc, 21h15. Là, il faut aussi une victoire pour calmer le chaudron marseillais. L'OM a mis à l'écart son milieu de terrain, Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après une bagarre dans le vestiaire. Et donc, après la défaite de vendredi dernier contre Rennes, il n'y a plus le choix, estime ce supporter marseillais.
Le contexte fait que là, on n'a plus droit à l'erreur par rapport à tout ce qui se passe autour, donc l'embrasement médiatique et même au cœur du vestiaire avec le conflit Rabiot et Rowe. Là, après match de la saison à la maison face au Paris FC, alors oui, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas un rival, mais ça reste un match important. On sait les retombées qu'il risque d'avoir si un mauvais résultat. Donc c'est un match qu'il faut gagner. C'est Marseille. Hein. Marseille, ça peut être la crise du premier match, comme on l'a vu. Et alors les supporters, en général, ont été plutôt cléments la saison dernière. Là, par contre, j'ai l'impression que voilà, là, c'est sur une corde et à tout moment, la corde, elle peut casser et ça peut partir très vite en sucette.
OM Paris FC, c'est donc à 17h tout à l'heure.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Virginie Hilson-Lévy, on vous retrouve. Le soleil brille quasiment partout cet après-midi.
Oui, des conditions anticycloniques qui assurent un temps calme et sec, un temps très lumineux dans de nombreuses régions. Sur un tiers sud, notamment de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, la région PACA et la Corse, Mistral et Tramontane soufflent entre 50-60 km/h en vallée du Rhône avec un risque d'incendie près de la Méditerranée qui va rester élevé. Un voile de nuages aussi élevé au nord, mais un temps sec et quelques passages nuageux plus importants et nombreux sur un quart nord-est de la Normandie au bassin parisien aux frontières du nord et quelques nuages aussi qui vont bourgeonner en montagne mais sans conséquence.
Et c'est dans le sud-est qu'il fera le plus chaud.
Oui, des températures en hausse près de la Méditerranée sous le soleil. Elles vont atteindre au meilleur de la journée 28 à 31 degrés localement, 33 degrés sur le Var et le Languedoc, 30 degrés à Marseille, Montpellier, 31 à Nîmes, 32 à Perpignan, 21 à 25 degrés au nord de la Loire là où le ciel sera un petit peu plus nuageux mais aussi du quart nord-est vers la région Rhône-Alpes et compter 25-28 degrés du Poitou-Charentes au sud-ouest avec un temps très lumineux.
Virginie Hilson-Lévy.